Phil PM. La voix est libre.
Sacrifice qu'on n'a pas fini de l'entendre, cette musique-là. Alors, écoute, c'est des grosses nouvelles, là, parce qu'on a beau s'en moquer un peu. La reine vient de mettre de l'eau dans son scotch.
Les paroles sont « Ma famille et moi soutenons entièrement le désir de Harry et Meghan de créer une nouvelle vie en tant que jeune famille, bien que nous aurions préféré qu'ils restent des membres à temps plein de la famille royale. Nous respectons et comprenons leur souhait de vivre une vie plus indépendante en famille, tout en restant une partie importante de ma famille. »
Bon.
Les larmes! J'ai les larmes, Bernard. J'ai pas senti le moton, là.
Ah, je l'ai senti, si tu savais, toute l'émotion qui m'étreint. Et là, on va aller rejoindre Gérard Herens, qui est correspondant à Londres, pour savoir un peu comment les Britanniques prennent ça, cette nouvelle-là. Gérard Herens, bonjour.
Bonjour. Si l'on s'en réfère à la presse, elle est extrêmement sévère. Les réseaux sociaux aussi, d'ailleurs. Les réactions sont souvent acrimonieuses. À la une du Times ce matin, je vous lis le titre là, « Harry dans la tourmente ». Le Daily Mail, « Pas si vite, Harry ». Daily Express, « La reine va dire à Harry ce qu'il va lui en coûter ». Daily Telegraph, « Crainte que Harry ne dise tout, sinon si son projet est bloqué ». Le Daily Mirror, quant à lui, met le même titre, mais il s'adresse à Meghan, craignant que Meghan ne dise tout.
Attends un petit peu, Gérard Herens. Ça veut dire quoi? Dire quoi? Il y a deux journaux qui disent, pour un, Harry pourrait dire tout, l'autre dit, Meghan pourrait dire tout, pourrait dire quoi?
Eh bien, dire les raisons pour lesquelles ils veulent s'éloigner en quelque sorte de la famille royale. Je pense que les raisons sont multiples. Hein. Il y a d'abord le fait qu'ils sont l'un et l'autre harcelés par une presse qui ne les lâche pas. Il y a le fait que aussi Harry est encore traumatisé, je pense, par les circonstances de la mort de sa mère. Faut-il le rappeler? En effet, Diana avait trouvé la mort dans un accident de circulation, alors qu'elle était poursuivie, pourchassée littéralement par des paparazzi. Ce sont des événements qui l'ont marqué et il ne veut pas que semblable mésaventure se renouvelle.
Mais est-ce que vous craignez pas, est-ce que vous pensez pas que les paparazzi vont les suivre au Canada s'ils viennent s'installer au Canada?
C'est possible, mais dans la mesure où ils auront moins d'activités officielles, ça prendra du plomb dans l'aile assez rapidement. Je pense que les paparazzi finiront par se lasser de ne pas les voir faire de déclarations particulières, de rester éloignés et de refuser de leur adresser la parole aussi.
Mais vu d'ici, là, on a beaucoup de difficultés à comprendre pourquoi ça suscite tant d'émotions, cette décision du prince et de son épouse. Parce qu'au fond, ça n'a pas beaucoup d'importance.
C'est vrai que ce n'est pas d'une importance cruciale, si l'on compare en tout cas à la crise monarchique de 1936, où c'était le roi qui avait abdiqué. Là, il est seulement sixième prétendant au titre, sixième dans l'ordre de succession. Ses chances d'accéder au trône sont absolument infimes. Ouais. Donc, je ne pense pas que ça revête une importance particulière. C'est le côté symbolique, je crois, qui défrise en quelque sorte les Britanniques. Les réactions, soit dit en passant, sont intéressantes. J'ai consulté un petit peu les statistiques et les jeunes gens, d'une manière générale, comprennent fort bien que Harry veuille prendre ses distances, briser les ponts si besoin est. Par contre, les personnes plus âgées, les plus de 55 ans, sont majoritairement hostiles à cette prise de distance, en quelque sorte. Donc, la démographie dit quelque chose, là aussi. Harry a 35 ans, il fait partie de ces jeunes gens plus indépendants qui ne veulent pas dépendre de ce que dit sa grand-mère, après tout.
Et comment vous décodez le langage de la reine qui parle d'une période de transition, beaucoup de travail à accomplir, des dossiers complexes? Alors, elle fait référence à quoi? Au financement?
À l'argent? À l'argent, oui. À l'argent?
Bon, Peut-être, il y a un peu de ça, mais je pense surtout que la reine veut un petit peu apaiser les tensions qui se sont manifestées ces jours-ci. Depuis une semaine, on ne parle guère que de ça. Les histoires de Brexit et les crises internationales sont reléguées au deuxième plan ou dans les pages intérieures des journaux. Donc, c'est une manière pour la reine d'apaiser, oui, en quelque sorte, l'opinion publique, de dire, écoutez, on va prendre ces décisions en famille, on va en reparler entre nous, même si elle est fâchée, elle ne veut pas faire une scène de ménage en public.
Est-ce que il y a des Britanniques qui blâment Meghan, qui disent dans le fond, l'Américaine est venue marier notre prince, notre rebelle. Elle a foutu le bordel dans la famille royale et pour coiffer le tout, elle part avec, elle l'amène en Amérique.
Oui, effectivement. Elle est déjà d'ailleurs retournée en Amérique du Nord. Donc, elle n'a pas assisté à ces discussions qui ont pu être acrimonieuses, on ne le sait pas, mais qui sont restées, en tout cas, dans la plus grande discrétion. On a jeté un voile pudique sur les échanges qu'ont pu avoir la reine, ses petits-fils et son fils, le prince Charles. C'est une espèce de réunion au sommet entre la reine, le prince Charles et William et Harry. Donc, à eux quatre, ils ont dû avoir une discussion franche, comme on dit en termes de politique, ce qui veut dire qu'on s'est disputé, mais on ne veut pas en parler en public. Et ça, c'est légitime.
En tout cas, chose certaine, il y a une question d'argent en dessous de ça, Gérard et Reince, là, parce que Meghan et Harry recevaient, je ne sais pas combien ils recevaient par année là, du Trésor britannique. Est-ce qu'on le sait, ça, combien ils coûtaient, ces deux-là?
Ah, plusieurs millions, effectivement, plus que leur versait à titre personnel le prince Charles. Donc, ils n'étaient pas dans la misère à proprement parler. Maintenant, la fortune personnelle du prince de Harry est évaluée à environ 30 millions de livres sterling. Donc, ils vont pas être vraiment à la soupe populaire à court terme.
Donc, c'est quoi, 50 millions à peu près, 50 millions canadiens là, avec le taux de change
actuel? Quelque chose comme ça. Donc, ils pourront s'acheter une jolie petite maison et puis vivre de leur rente et de leur revenu quand même.
Bon, très bien, Gérard et Reince. On est rassuré.
On est rassuré. On sent mieux déjà. On respire mieux.
La plus vive dans vos voix, là comme l'autre.
On respire beaucoup mieux.
Je rappelle que vous êtes correspondant à Londres. Vous avez été pendant quelques années à la BBC. Il faut le rappeler, Gérard.
De longues années, même 25 ans. Hein?
Très bien, 25 ans. Merci beaucoup, Gérard Herrens.
Au revoir.
Merci. Au revoir.
Et là, on a une connexion canadienne.
Ben oui.
Maryse, notre chercheuse, vient de me le remettre entre les mains. Je le savais de toute façon.
Ouais.
L'épouse de Ben Mulroney, Jessica Mulroney. Étant le fils de Brian,
ouais.
Est la meilleure amie de Meghan Markle. Et pendant qu'elle a fait son court séjour à Londres pour aller préparer cette annonce, c'est elle qui gardait l'enfant.
Oui. Il paraît que c'est elle qui a gardé le bébé.
Archie, quand
ils sont tourné à Londres récemment. Là.
C'est tout à fait vrai.
Ouais.
Et Jessica Mulroney, souviens-toi qu'au fameux mariage du prince Harry, il y avait deux jumeaux. Les deux jumeaux qui avaient des fleurs dans les mains, c'était les deux petits-fils de Brian Mulroney, c'était les fils de Jessica. Et Jessica était styliste au cinéma et dans le théâtre et tout.
Et ils se sont connus quand elle tournait
Suits.
Voilà, quand Meghan est venue tourner Suits à Toronto.
Elle était styliste sur cette émission-là.
Ils sont
devenus de très, très bonnes amies. En fait, on dit que c'est la meilleure amie de Meghan Markle. Alors, la famille Mulroney était... Il y a une connexion québécoise, Bernard. Il y a une connexion québécoise.
Bon,
et monsieur, hein?
Là, les gens qui nous écoutent, là, puis il y en a un paquet qui m'écrivent, là, Luc, là, après avoir entendu que Harry... Ah, mettons 50 millions en banque.
Oui.
Il y a les moyens de se payer ses services policiers. Il y en a qui vont dire, c'est pas à nous autres de payer pour la GRC qui va y protéger les deux moineaux puis toute la famille pendant qu'ils vont être au Canada, là. Mais c'est vrai, ça, Luc.
Ben,
on paye déjà pour la gouverneure générale puis tous les lieutenants-gouverneurs. Là, il va falloir, c'est sûr.
Tous les membres de la famille royale qui font une visite au moins par année ici.
Ben ouais,
une fois,
mais là...
c'est le prince Charles, une fois, c'est le prince William, une fois, c'est.
Ben oui. S'ils s'installent ici, là, mettons 6 mois par année, là.
Peut-être que ça fait partie des questions complexes à régler dont parle la reine, je le sais pas, moi. Je pense que je crois comprendre qu'ils sont ils s'établissent à Victoria, à côté de Victoria.
Tu gages-tu, tu gages-tu que ça va finir par nous coûter quelque chose, cette
maudite tu gages-tu que je suis d'accord avec toi? Puis tu gages-tu qu'à Victoria, personne ne va s'en plaindre? Parce qu'on dit souvent de Victoria que c'est une ville qui est plus britannique que les Britanniques. Mais les traditions britanniques ont été sauvegardées là-bas parce que l'histoire de Victoria, c'est que c'est un endroit où les citoyens britanniques fortunés allaient prendre leur retraite à cause du climat qui est absolument superbe, environ 10 mois par année. Et ils ont gardé leur tradition, mais là, c'est devenu comme un trademark de la place. C'est devenu comme... Ça fait partie du branding de la ville de Victoria. Tu t'en vas au Empress. Y as-tu déjà été, Bernard?
Non, je suis pas allé au Empress.
L'hôtel
Empress. Quoi, le 4 o'clock tea?
Ben, ils appellent ça le high tea, oui.
Hein?
Le high
Would you like a cup of tea, Bernard?
Et je vais te dire une chose, là, si un jour tu vas à Victoria ou quiconque va à Victoria, faut aller à l'Empress. Ça nous fait penser à Rudyard Kipling, ça nous fait penser à Winston Churchill, ça nous fait penser à toute une époque. C'est un magnifique hôtel, puis le High Tea, tu t'en souviens pour très longtemps, entre autres à cause de la facture.
Je te raconterai un jour, pas là parce qu'on a écoulé notre temps, mais je te raconterai un jour, à la fin de mes études à Londres, j'étais là sur une bourse. Et puis, il a fallu que je gagne un petit peu de sous. Fait que je suis devenu laveur de casseroles dans la résidence où j'étais. Oh. Je laverais les grosses casseroles. Les
Justement,
casseroles
j'ai pas mal de vaisselle chez nous. Bernard, peux-tu...
Et à 4 heures, une des cuisinières de la cafétéria, qui s'appelait June, comme juin, elle arrivait vers 4 heures, puis elle disait « Bernard, would you like a cup of tea? » Puis là, pendant 15 minutes, c'était le tea break.
Ah oui, tout le monde arrêtait.
Tout le monde arrêtait, tout le monde prenait le thé.
Et voilà.
Et là, je retournais à mes casseroles. Quand, c'est-tu pas beau, ça, comme histoire? C'est-tu pas beau comme histoire? Ah, j'ai un petit peu de British en moi, là. Après la pause, nous allons parler un peu des États-Unis.
Oui.
Hein, la course pour essayer de trouver un remplaçant à Trump du côté des démocrates.